Eh bien, nous allons débuter tout cela avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est la douche froide pour les bénéficiaires des APL et Emmanuel Macron leur avait promis une aide exceptionnelle comme pour les bénéficiaires du RSA, 150 euros plus 100 euros par enfant, revirement hier soir et indignation d'associations comme la Fondation Abbé Pierre car cette mesure devait notamment aider les jeunes.
Des jeunes qui ont du mal à se faire à l'idée de passer des soirées sous couvre-feu dès 21h en Île-de-France et dans 8 métropoles.
Une mesure qui ne passe pas, surtout pour celles et ceux qui vivent dans de petits appartements, des étudiants qui suivent déjà des cours à distance à l'université. L'isolement risque de peser sur eux. Témoignage et regard d'un psychologue dans ce journal.
À cause de la crise sanitaire, les élections régionales et départementales prévues en mars seront-elles reportées?
Le gouvernement pose la question aux partis politiques, des partis qui craignent, eux, une manipulation électoraliste orchestrée par Emmanuel Macron. À la une encore, un curieux duel télévisé à distance aux États-Unis. Entre Donald Trump et Joe Biden, les rivaux de la présidentielle américaine ont une nouvelle fois affiché de profonds désaccords sur la gestion de l'épidémie de Covid. Et Donald Trump a par ailleurs refusé de condamner des conspirationnistes QAnon.
Et puis dans une dizaine de minutes, comme tous les vendredis, tant que durera le virus, Catherine, nous retrouverons la radiographie du coronavirus du camarade Nicolas Martin.
Emmanuel Macron, avant-hier, puis Jean Castex, hier, étaient pourtant catégoriques.
Pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, là aussi très largement les 18-25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle, là, pendant ces 6 semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant.
Les 100 euros supplémentaires, c'est 6 ans un enfant, mais c'est en plus. Donc on peut supposer que lorsqu'il n'y a pas d'enfant, on en reste aux 150 euros de base, y compris pour les gens qui ont la PL.
Mais finalement, l'entourage du Premier ministre a précisé que seuls les bénéficiaires du RSA et de l'allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs en fin de droit toucheraient cette aide de 150 euros, auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Les bénéficiaires des APL toucheront, eux, uniquement la prime de 100 euros par enfant. C'est ce qui s'appelle donc un couac, alors que l'exécutif voulait toucher très largement les 18-25 ans. Un couac qui dérange du côté de la Fondation Abbé Pierre. Christophe Robert, son délégué général, craint notamment que certains jeunes isolés de leur famille se retrouvent sans aucun soutien.
Je pense à tous ceux qui vivent seuls et qui bénéficient des APL, mais qui n'ont pas d'enfants et qui n'auront pas d'aide. Je pense aussi aux jeunes qui n'ont pas droit au RSA, puisque le RSA est ouvert à partir de 25 ans, et qui ne seront pas non plus aidés par cette aide exceptionnelle quand ils sont plus soutenus par leur famille et qui n'ont rien. Donc ça crée beaucoup de confusion, beaucoup d'inquiétude quand même, parce que les jeunes, tout le monde le sait, sont parmi les plus fragilisés par cette crise sanitaire, économique, sociale. C'est incompréhensible, c'est même insupportable. Un peu de compassion, un peu d'écoute. S'ils n'ont rien, ils vont pas pouvoir s'en sortir. Voilà, donc j'espère que le gouvernement va recadrer le tir, d'une part en ouvrant une aide exceptionnelle pour les jeunes, aussi en réorientant sa position vers une augmentation significative du RSA et son ouverture au moins de 25 ans. Mais là, on y croit moins.
Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Difficile d'avoir 20 ans en 2020, comme le disait Emmanuel Macron mercredi soir. Mais le plan pauvreté dévoilé demain devrait ouvrir un nouveau volet pour la jeunesse. Des jeunes notamment qui ont du mal à accepter le couvre-feu mis en place dès minuit ce soir en Île-de-France et dans 8 autres métropoles. Le reportage à Paris de Marc Potdevin.
Astrée a encore du mal à se remettre de l'annonce du couvre-feu, mesure disproportionnée pour cette étudiante en master à la Sorbonne. Surtout, elle lui complique la vie.
Moi j'habite toute seule, donc c'est compliqué. Si on n'a pas les cours en présentiel, on voit personne. Et si en plus le soir on peut pas sortir, ça nous enferme dans des petits apparts à Paris. C'est pas très drôle.
Astrée a prévu de sortir demain soir avec le couvre-feu. La soirée ne va pas s'éterniser, à moins qu'elle n'ait lieu en intérieur. La parade est déjà trouvée.
On a des potes qui ont des grands apparts, du coup ils nous ont dit vous pouvez tous dormir à la maison, peut-être que ça va se passer comme ça.
Robin, lui, est moins préoccupé par les soirées que par sa recherche d'emploi. À cette préoccupation s'ajoute ce couvre-feu qu'il compte respecter à la lettre avec sa compagne.
Je me résigne, il est de mon devoir d'obéir. Après, personnellement, c'est une résignation difficile et douloureuse.
Le but de l'exécutif, c'est que la règle soit respectée. Pour ça, il peut compter sur la pression du groupe, explique Pascal Huguet, directeur du laboratoire de psychologie sociale et cognitive de l'université Clermont-Auvergne.
Il Nous sommes des êtres sociaux, donc super sensibles au comportement des autres autour de soi, aux opinions, etc. Si je suis minoritaire à penser que le couvre-feu, il faut s'en libérer, évidemment, la probabilité que je maintienne ce comportement, elle est faible.
Pour que le couvre-feu soit respecté, l'exécutif peut aussi compter sur la peur de l'amende, 135 euros en cas d'infraction.
Le couvre-feu difficile à encaisser également pour le monde du spectacle qui retrouvait des couleurs et un public en cette rentrée. L'horaire de 21h est un couperet que les professionnels espèrent éviter dans les métropoles concernées par cette mesure. À Paris, par exemple, la maire Anne Hidalgo demande une dérogation pour le spectacle vivant. Elle doit rencontrer aujourd'hui la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour discuter de mesures permettant de trouver un compromis pour assurer la survie de la vie culturelle en cette période de pandémie. Plusieurs fédérations du spectacle vivant, comme le Prodis, souhaite que les billets de spectacle servent d'attestation pour les déplacements pendant le couvre-feu. Avec l'interdiction des fêtes privées comme les mariages ou les soirées étudiantes et la règle des 6 convives à table qui s'applique par ailleurs désormais à tous les restaurants en France, ces nouvelles restrictions sanitaires sont difficilement supportables pour les professionnels des secteurs touchés, comme l'explique Alex Boireau, président du syndicat professionnel des maîtres d'hôtel d'Extra, fournisseur officiel notamment de la présidence de la République et des salles à manger de direction de plusieurs entreprises importantes.
Le peu d'activité qui existait va être divisé par deux. Donc mathématiquement, vu qu'on travaille autant le soir que le midi, l'activité va diminuer. On ne va pas dire disparaître. Donc on a déjà eu beaucoup d'annulations. Il y a énormément de salles à manger qui ne veulent pas prendre de risques, qui vont se limiter en fait à 6 couverts. Là, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a beaucoup d'adhérents qui songent à démissionner, à se reconvertir, qui repartent dans d'autres domaines d'activité, sont bien conscients qu'il n'y a plus d'avenir pour eux dans ce métier. Moi-même, je pose la question. Je pense que la seule issue pour nous, c'est de retrouver une année blanche comme l'ont eu les intermittents du spectacle, histoire de retrouver des jours pour l'emploi et de pouvoir donc payer les factures et continuer en fait à exister en attendant une reprise. À condition qu'elle soit assez rapide.
Alex Boireau, à la tête du syndicat professionnel des maîtres d'hôtel d'Extra, il répondait à Anne-Laure Jumet. Le gouvernement a annoncé hier des mesures supplémentaires pour les entreprises situées dans les zones de couvre-feu, mais pas seulement. Pour le moment, Bercy chiffre à 1 milliard d'euros le montant de ces nouvelles aides, qui comprennent notamment pour les entreprises de l'hôtellerie, café, restauration et celles de la culture, de l'événementiel et du sport. À partir de 50% de perte de chiffre d'affaires, il sera possible d'avoir accès au fonds de solidarité et non plus à partir de 70% de pertes. Pour les infirmières, une accélération du versement des augmentations de salaire prévues dans le cadre du Ségur de la Santé, 93 euros versés avant la fin de l'année plutôt qu'en mars prochain et des indemnités compensatrices de 110 à 200 euros bruts par jour pour des congés annulés. C'est ce que Jean Castex a mis sur la table pour motiver les équipes soignantes et les inciter à rester sur le terrain pendant les semaines à venir, en particulier pendant les vacances de la Toussaint. Mais l'argent ne fait pas tout lorsqu'on est épuisé, répondent les soignants. Ils manifestaient hier à Paris notamment pour réclamer des moyens d'ampleur, des moyens financiers, matériels et humains. Et la gestion de la crise économique et sanitaire par l'exécutif pourrait bien peser lourd dans la présidentielle de 2022. Mais avant cela, en mars prochain, il y a les élections régionales et départementales. Vont-elles être reportées? La question sera étudiée au sein d'une commission associant l'ensemble des partis, annoncé hier le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Et la classe politique est partagée aujourd'hui entre méfiance et vigilance après des municipales chaotiques en mars dernier sous la menace du Covid jusqu'au mois de juin. Le reportage d'Antoine Marette.
La méfiance est de rigueur du côté des partis politiques qui craignent une manipulation électoraliste orchestrée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État anticiperait un échec de son parti lors des prochaines régionales et départementales. Il aurait donc intérêt à les repousser après la présidentielle. À droite, on est donc plutôt opposé à un report. C'est le cas de Renaud Muselier, président de la région PACA, pour qui il ne faut pas toucher en permanence aux dates électorales. Mais en même temps, il y a une réalité sanitaire et le souvenir du chaos des municipales. Un premier tour maintenu 2 jours avant le confinement et un second tour reporté en catastrophe. Le patron LR des sénateurs, Bruno Retailleau, demande donc qu'un éventuel report soit décidé suffisamment tôt, au plus tard, au tout début de l'année 2021. Autre question et pas des moindres, reporter à quand ? Pour la secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Regol, c'est même la question centrale.
Un report au mois de mai ou juin s'entend, en raison des conditions sanitaires. un report après, peut-être après l'élection présidentielle, serait plutôt vu comme un report politique. Décalé de beaucoup pour remplir des objectifs politiques nous paraît très gênant.
Sandra Regol n'est pas opposée à un report en mai ou juin, contrairement au secrétaire national de son parti, Julien Bayou, qui y voit un report pour convenance personnelle du chef de l'État.
7h10 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu sur France Culture. Il avait déjà refusé, lors du premier débat présidentiel, de condamner les suprématistes blancs aux États-Unis.
Donald Trump a cette fois esquivé hier soir des questions sur les QAnon, une mouvance d'extrême droite qui défend l'idée que l'actuel locataire de la Maison-Blanche mène une guerre secrète contre une secte libérale mondiale composée de pédophiles satanistes, des conspirationnistes désormais bannis de YouTube, de Twitter et de Facebook. Mais Donald Trump l'a
Je ne connais rien d'eux, mais je sais qu'ils sont très engagés contre la pédophilie, mais je ne sais rien de plus. Je vais vous dire ce que je connais. Les Antifa et la gauche radicale, combien ils sont violents, vicieux, ils brûlent des villes dirigées par des démocrates, pas par les républicains.
Donald Trump, à J-18 de l'élection présidentielle aux États-Unis, l'affrontait à distance son rival démocrate Joe Biden, chacun dans une émission face aux électeurs. Et l'épidémie qui a fait plus de 215 000 morts dans le pays, la gestion de la crise par l'administration Trump était au cœur de ce duel à distance, Grégory Phillips.
Donald Trump est à Miami, sur le plateau de NBC. Joe Biden à Philadelphie, sur la chaîne concurrente ABC. Deux salles, deux ambiances. Face à la journaliste Savannah Guthrie et aux questions posées par le public, le président sortant et candidat républicain paraît tendu, agressif, s'agaçant quand on l'interroge, notamment sur le port du masque. L'autre jour, dit-il, il y avait cette étude qui explique que 85% de ceux qui portent un masque attrapent quand même le virus. La journaliste corrige Trump. Ce n'est pas ce que dit cette étude. Mais le candidat reprend. Hey, je suis président, il faut bien que je voie des gens, je ne peux pas rester enfermé dans un sous-sol, la journaliste, mais vous pourriez quand même porter un masque. À Philadelphie, l'ambiance est plus feutrée, pour ne pas dire soporifique, mais Joe Biden, comme en réponse à Donald Trump, dit ceci. Les mots d'un président comptent, cela compte. Et quand le président ne porte pas de masque, ou qu'il se moque de quelqu'un comme moi, parce que je porte un masque depuis longtemps, alors il y a un risque que les gens pensent, bon, ça ne doit pas être si important. Le town hall de Donald Trump a duré une heure, une demi-heure de plus pour celui de Joe Biden. C'est l'audimat, demain matin aux États-Unis, qui dira lequel des deux a remporté ce duel à distance.
Grégory Phillips aux États-Unis pour France Culture. Le temps de ce vendredi 16 octobre, frais et humide sur une grande partie de l'Hexagone, au meilleur de la journée. Il fera entre 10 et 19 degrés du nord au sud, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutu, 7h12. Dans quelques instants, on retrouve le camarade Nicolas Martin pour sa radiographie du coronavirus.